l'écoute des RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Loïc Bussière.
L'heure de votre journal en français, facile journal que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
À la une de l'actualité ce soir, le Cameroun et la libération de Maurice Kanto et de nombreux autres opposants. Hier, le président Paul Biya avait demandé l'arrêt des poursuites à leur encontre. On y revient en tout début de journal.
Et puis aux États-Unis, le camp de Donald Trump parle de harcèlement des démocrates. L'opposition exige de la Maison-Blanche des documents dans le cadre de l'enquête qui pourrait déboucher sur la destitution du président.
À la une également en France, on en sait un peu plus sur l'attaque de la préfecture de police de Paris. Le procureur national antiterroriste donnait tout à l'heure une conférence de presse. Elle met en lumière les contacts de l'assaillant avec les milieux de l'islam radical.
Le journal
en français facile.
En français facile.
Et on se rend au Cameroun pour débuter ce journal au lendemain de l'annonce de Paul Biya, le président camerounais qui a demandé l'arrêt des poursuites judiciaires contre 102 opposants politiques.
Et à commencer par Maurice Kanto, le candidat malheureux du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun à la présidentielle de l'an dernier. Tous sont officiellement libres. Retour sur l'audience devant le tribunal militaire avec notre envoyé spécial Karine Franck.
12h30, Maurice Kanto et des autres responsables comme Christian Ekoka, Albert Nzongan, Maître Michel Ndoki ou encore le chanteur Valsero sont conduits dans la salle d'audience du tribunal militaire, accueillis par des chants, des cris de joie. C'est la victoire des démocrates, la victoire du peuple camerounais, crient les militants. Juste avant 13h, la cloche retentit, la salle se calme, les magistrats font leur entrée. Le commissaire du gouvernement qui représente le ministère public prend la parole. Nous avons des réquisitions spéciales, déclarées avant de demander l'arrêt des poursuites. Aussitôt, les trois juges ordonnent la remise en liberté immédiate des accusés. L'audience aura duré une vingtaine de minutes. Les opposants sont officiellement libres, mais ils devront patienter encore un peu. Ils sont reconduits à la prison principale le temps que le régisseur accomplisse les formalités de levée d'écrou. Maître Sylvain Souop, coordinateur du collectif des avocats de la Défense, salue le geste du président Paul Biya, mais il estime toutefois que les opposants n'auraient jamais dû être arrêtés, encore moins passer plus de 8 mois en détention. Karine Franck, Yaoundé, RFI.
Dans l'actualité également, Loïc, la situation en Irak où des milliers de personnes étaient dans la rue aujourd'hui encore pour réclamer le départ du gouvernement accusé de corruption.
Et à ce mouvement entamé en début de semaine, les autorités répondent par la violence. Une centaine de morts environ et plusieurs milliers de blessés depuis mardi dans tout le pays. La police a de nouveau tiré aujourd'hui sur la foule.
Il est 16h03 à Washington. Le personnel du département d'État a été harcelé par le Congrès. Voilà la contre-attaque du secrétaire d'État américain Mike Pompeo au Congrès qui veut avoir accès à certains documents en vue d'une procédure de destitution de Donald Trump.
La destitution, ce qui signifierait retirer à Donald Trump son titre et sa fonction de président. Les parlementaires démocrates tentent de démontrer que Donald Trump a fait pression sur son homologue ukrainien pour obtenir de quoi salir, de quoi compromettre donc Joe Biden, son adversaire potentiel à la présidentielle de 2020. Lors d'un déplacement à Athènes ce samedi, le chef de la diplomatie américaine a soutenu qu'il respecterait la loi, mais que les enquêteurs du Congrès outrepassaient leur pouvoir. Écoutez Mike Pompeo.
Le département d'État a envoyé une lettre au Congrès, ce qui constitue notre première réponse à cette demande de documents. Nous ferons évidemment tout ce qui est requis par la loi. Mais malheureusement, des personnes chargées de l'enquête parlementaire ont harcelé et fait pression sur des employés du département d'État. On les contactait directement en cherchant à obtenir des documents qui appartiennent au département d'État, qui sont des documents officiels du gouvernement américain, et en leur demandant de le faire sans rien dire, en disant « Eh, ne prenez pas la peine d'appeler les avocats du département d'État. Parlez-nous directement. C'est du harcèlement et je ne laisserai jamais cela arriver à mon équipe. Donc nous allons effectuer toutes ces démarches. Je me souviens d'ailleurs quand j'étais au Congrès et que nous voulions obtenir des documents. Je me souviens exactement du temps qu'il a fallu pour que ces documents nous parviennent. Eh bien nous allons aller plus vite. Nous allons être plus réactifs que l'administration Obama ne l'a été les années passées.
Les propos de Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine.
En France, le procureur de la République antiterroriste a pris la parole deux jours après la tuerie de la préfecture de police de Paris.
Jean-François Ricard a détaillé le périple meurtrier de l'agresseur. Il a duré 7 minutes au total avant de tuer ses 4 collègues. L'informaticien de 45 ans avait acheté 2 couteaux non loin de la préfecture à l'heure du déjeuner jeudi. Une trentaine de textos échangés avec sa compagne avant l'attaque sont essentiellement d'ordre religieux. À noter qu'une cérémonie en hommage aux victimes de cette attaque se tiendra mardi matin à la préfecture de police de Paris. Emmanuel Macron sera présent, prévient ce soir l'Élysée, sans plus de détails pour l'instant. Alors, passe à l'actualité des sports. À présent, dans ce journal en français facile, on part pour Doha, au Qatar, où se déroulent les championnats du monde d'athlétisme. Et on retrouve notre envoyé spécial, Christophe Jousset. Bonsoir, Christophe. On fait le point vous sur les résultats de la soirée.
Oui, la grande dame de cette journée s'appelle Sifan Hassan, la néerlandaise qui a remporté la médaille d'or sur le 1500 mètres quelques jours après avoir gagné le 10 000 mètres. Un doublé 1500, 10 000 mètres, c'est du jamais vu, ni au championnat du monde, ni aux Jeux Olympiques. Personne n'avait jamais fait ça. Sur 5 000 mètres, un doublé des Kenyans avec Hélène Obiri notamment, qui conserve son titre. Et puis également un concours de lancer de poids masculin très relevé, peut-être le plus relevé de toute l'histoire. Djokovic, l'Américain, a lancé à 22,91 m. Il devient le troisième performeur mondial de tous les temps. Il devance d'un petit centimètre les médaillés d'argent et de bronze. La journée s'est terminée avec les finales des 4 fois 100 mètres. Chez les dames, victoire des Jamaïcaines avec dans leur rang Shelly-Ann Fraser. Chez les hommes, victoire des Américains avec Coleman, Gatlin et Lyles, notamment devant les Britanniques et les Japonais. Échec pour les Français qui se sont raté sur la première transmission de bâton, ce qui fait que le maître n'a pas du tout couru, lui, le dernier relayeur. D'ailleurs, la journée a été bien sombre pour les Français, éliminés ou battus partout, dans le 4x4 féminin, notamment sur les séries du 100 mètres et les 3 Françaises éliminées et les 3 Françaises éliminées également à la qualification du saut en longueur avec notamment Héloïse Le Sueur.
Christophe Jousset en direct de Doha au Qatar, envoyé spécial donc pour les championnats du monde d'athlétisme. 22h07 à Paris, c'est la fin de ce journal et c'est l'heure de retrouver Yvan Amar pour le mot de la semaine.
Les manifestations se poursuivent à Hong Kong et les manifestants sont souvent masqués, malgré la défense qui a été faite par le gouvernement, par le décret anti-masque. Alors, pourquoi se masque-t-il? Pour éviter, bien sûr, d'être identifié, d'être reconnu par les forces de police. Et là, on va retrouver l'une des deux fonctions principales du masque. Parce que le masque, soit il cache, soit il montre. C'est étrange, parce que voilà deux fonctions pratiquement inverses. Et en effet, le masque peut montrer quelque chose. Par exemple, dans une cérémonie, s'il y a des gens qui sont masqués, ils cachent leur visage, mais ils prennent l'apparence symbolique de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre, d'une divinité, d'une force quelconque. Ou bien au théâtre, si des acteurs mettent un masque, c'est pour représenter peut-être un renard, un loup, un roi. Donc, on va mettre l'accent sur ce qui est montré, sur ce que le masque exhibe, qu'il rend évident. Mais, tout aussi souvent, le masque, il cache celui qui est derrière. On ne sait pas qui c'est. Et le mot, souvent, est lié à une idée de tromperie, d'hypocrisie. Le masque est un faux visage. C'est le premier sens du mot en italien. Et ce mot de masque vient de l'italien. Il empêche qu'on sache qui est derrière. Donc, ce mot de masque, parfois, a le sens d'apparence trompeuse. Et ça explique un certain nombre d'expressions. Quand on dit « lever le masque », par exemple, cela veut dire découvrir sa vraie nature. Après la mort de sa femme, il a levé le masque et il a été odieux avec ses beaux enfants. Bon, on pensait qu'il était gentil, mais en fait non, c'était de l'hypocrisie. Il a levé le masque, il a montré qui il était en réalité. Et quand on s'exclame « bas les masques », ça veut dire que là, on révèle les vrais désirs ou la vraie personnalité de quelqu'un, comme si on lui arrachait son masque.
Merci Yvan Amar pour ces précisions. 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Zéphirin Quadio.
C'était un plaisir Loïc.
Et merci à vous de votre fidélité à la Radio du Monde.